voisine du sport, moi, là.
Boulevard.
102-1.
Hey, merci d'être des nôtres. 16h07, vous écoutez Gravel dans le retour à Boulevard. Mon nom est Denis Gravel, Véro est là, Audrey est là. Le hockey, ça nous coule dans les veines et on le voit depuis le début des séries éliminatoires. Plusieurs jeunes le découvrent et plusieurs adultes s'en rappellent. Puis on a comme été envahis d'une vague de nostalgie depuis le début des séries parce qu'on a ressorti des porteurs de flambeaux, ceux qu'on appelle les glorieux, des joueurs du Canadien qui ont gagné des Coupes Stanley et qui fièrement prennent le flambeau pour le donner à la jeune génération. Et lundi, c'est Claude Lemieux, numéro 32 du Canadien, qui a porté le flambeau, qui le portait fièrement, qui a été accueilli en héros au Centre Bell par des milliers et des milliers de personnes. C'est sûr que c'est surprenant, choquant et attristant de savoir qu'il est décédé quelques jours plus tard du côté de la Floride à l'âge de 60 ans. Claude Lemieux qui a remporté 4 Coupes Stanley au cours de sa carrière. N'importe qui a trippé sur le hockey a été un petit gars à un moment donné. Puis moi, ma Coupe Stanley de petit gars, c'est la Coupe Stanley de 1986. J'avais 8 ans. Mon joueur, c'était Claude Lemieux. Mon goaler, c'était Patrick Roy. Puis mon coach, c'était Jean Perron. Je suis comme tiraillé dans mes émotions parce que c'est une moseuse de nouvelles tristes aujourd'hui. C'est une tragédie. Mais en même temps, je suis tellement content et je me sens tellement privilégié de pouvoir parler à mon coach préféré, mon coach de petit gars. Coach Jean Perron, bonjour.
Ben bonjour. Écoute, c'est des fleurs que tu m'envoies dans une journée triste, comme tu dis. C'est malheureux ce qui arrive à Claude parce que c'est un de mes joueurs préférés. Je vais te dire une chose, il m'a fait triper, il m'a fait rire, il m'a fait donner aussi, mais... Quel joueur!
Parlez à ceux qui ne connaissent pas Claude Lemieux, coach Perron. Parlez du fait que c'était un joueur clutch. C'était une peste. Les autres équipes voulaient tout y arracher à tête. Et en 1986, on se souvient de la légende de Patrick Roy, peut-être un peu moins de celle de Claude Lemieux. Et pourtant, c'est eux autres qui avaient transporté le Canadien jusqu'à la Coupe.
Ben oui, écoute, Claude Lemieux a marqué, je pense, c'est 10 buts.
Oui.
Il est en nomination pour le trophée Conn Smythe qui a été gagné par Patrick. Ah non, on va dire, il était fatigant, puis pas à peu près sur une patinoire. Claude, quand je l'ai coupé au camp d'entraînement en 85, j'étais pas trop content, mais je savais pas qu'il était aussi démoralisé que ça. Je m'en vais chercher mon auto après l'entraînement que j'avais coupé tous ces joueurs-là, des gars comme Claude Lemieux, Alfie Turcotte et ainsi de suite. Et l'agent de sécurité du parking à côté du forum dans le temps, il dit « Hey, tout un phénomène, ce Claude Lemieux-là. » J'ai dit « Comment ça? » Il dit « Il est arrivé à son auto, puis il dit il a pris son bâton, puis il a fracassé la vitre de son char. »
Wow! Bon,
ça fait que ça commence bien. Il n'était pas content, lui, de partir pour s'en aller à Sherbrooke. Mais à un moment donné, à la fin de l'année, on a eu un certain problème d'effectif. J'ai dit à Serge Chabard, on devrait aller chercher un gars comme Claude Lemieux. C'est Claude Lemieux qui nous avait gagné le match à Buffalo. C'était une période difficile de l'année. Penny avait été blessé. En tout cas, tu sais, quand une gang de jeunes, ils se remportent des affaires. Finalement, on est rentré dans les séries éliminatoires, puis là, mon Claude a tombé en feu bérette. Il a marqué des buts importants. On s'en souvient du fameux but là, contre les Whalers d'Hartford dans le 7e match.
Mais oui.
Et après ça, ben, il a continué son bout de chemin. Il a enguinandé tout le monde. Il s'est même battu contre c'était contre James Patrick que j'avais dirigé au programme olympique. Il ne s'était jamais battu de sa vie. Il a osé traiter Claude Lemieux de check-in. Et Claude a lâché les gants. Il avait sacré une volée à New York en plus. James Patrick s'était ramassé avec les yeux pour moi comme un raton laveur. En tout cas, on va dire, ça a été de même pendant toutes les séries. Et après ça, les Rangers ont dit aux Flames de Calgary, embarquez pas dans le manège de Claude Lemieux, vous allez avoir des problèmes. Et là, James Peplinski, qui était le capitaine des Flames de Calgary, a décidé de s'en prendre à la mise au jeu contre Patrick. Et finalement, il s'est mis des doigts un petit peu trop proches de la bouche de Claude. Claude, il avait mordu les doigts, il a eu des doigts inflammés, il n'a pas joué pendant les deux matchs. Ça fait que c'est juste pour vous montrer la sorte de gars qu'il est, les plus gagnants, spectaculaires, tough, gros patineurs, agitateurs, tout ce qu'un coach peut désirer avoir pour gagner des matchs dans la finale de la Coupe Stanley.
C'est drôle, hein, parce qu'on regarde le Canadien édition 2025-2026, puis on a l'impression que c'est une belle gang de beaux petits gars sages qui sourient, qui ont du fun. Jean Perron, il devait avoir les mains pleines, lui, dans le temps, 85-86, avec Shane Carson, Chris Chelios, puis Claude Lemieux. C'était pas des enfants de cœur, ça?
Hé, sacré fait! Pas des enfants de cœur, veut dire une chose sans brosser. Hey, tu sais, en parlant de ça, c'est... J'avais des bons leaders, par exemple, des gars comme Larry Robinson, puis Gainey,
ouais.
Bobby Smith, des bons vétérans, Ryan Walter. Puis Claude Lemieux, quand il arrivait sur le banc, il avait la manie. Puis j'avais la plus grosse équipe de toute la Ligue nationale. Le banc n'était pas assez gros parce que mes joueurs étaient énormes. C'était des gros gabarits de joueurs que j'avais. Et là, mon Claude Lemieux qui faisait ses étirements sur le banc. Hey, combien de fois que Bobby Smith a dit « Claude, veux-tu arrêter? Va t'étirer dans le corridor. Tu prends trop de place dans le chute. » En tout cas, puis là, mon Nylund qui disait « Claude, tu prends mon temps de glace. Mm-hmm. Débarrasse, sors de la patinoire. » J'aurais été obligé de prendre un crochet pour sortir de la patinoire, mais c'était ça, Claude Lemieux.
Ouais.
Au moins, il produisait, tu sais. Il était tannant, mais il produisait.
C'est-tu une bonne analogie de dire que c'était le Brad Marchand de son époque?
Oui, oui. C'est le Brad Marchand de son époque. C'est dans la catégorie des joueurs qui étaient fatigants, comme Marchand, ça en était un. Peut-être au niveau des habiletés aussi, parce qu'il y en a qui sont fatigants dans les nationales, des agitateurs. Mm. Mais. Des agitateurs qui ne remplissent, qui ne donnent pas de performance au niveau de la rue. Des buts, des assists, il y en a en masse, mais Claude Lemieux puis Marchand, là, c'est que de dire. Ça se ressemble étrangement.
C'est quand la dernière fois que vous avez jasé avec Claude Lemieux?
Jasé, la dernière fois, j'ai coaché les anciens Canadiens dans une journée un match de charité. Et j'avais, imagine-toi, j'avais Claude Lemieux et Stéphane Richer qui jouaient ensemble. Ils ont détruit la cabane. Il n'y a personne qui pouvait arrêter ces deux gars-là. Ils étaient tellement dans une forme spectaculaire, exemplaire. Puis naturellement, on s'est compté des anecdotes, toutes sortes d'affaires. Ouais. Les gars, toutes les vieilles affaires ont sorti. Tu sais, quand... Moi, j'avais des mommes-sauts de ce monde. Mm. Puis ces gars-là étaient tous là. Je les dirigeais comme anciens Canadiens. Ça fait que c'est là que j'avais eu ma dernière discussion avec.
Les cérémonies de porteurs de flambeaux cette année, de la façon que c'est fait, puis comment on a présenté chaque joueur comme une surprise à chaque soir, ça doit faire remonter des émotions, ça?
Ben, ça fait remonter des émotions parce que c'est des gars que je connais très bien.
Ouais.
Hein, tu sais, des gars comme Chris Mellon, Larry
ouais.
Barbelson... j'ai pas eu Alak, par exemple. J'ai pas dirigé Alak, mais il reste que c'est tellement bien fait. Tu sais, regarde ça, ce que le Canadien fait au niveau des ouvertures de match. Il y a personne dans la Ligue nationale, pas aucune équipe qui fait des choses semblables. Ah non, c'est fait avec Klaus, puis les joueurs sont heureux de dire qu'ils ont appartenu au club de hockey canadien, comme moi d'ailleurs.
Je vais parler à mes enfants ce soir qui sont des partisans du Canadien puis qui suivent les séries. Puis je vais leur parler de Claude Lemieux. Puis ce que je voulais leur dire pour leur faire comprendre quel genre de joueur c'était Claude Lemieux, c'est de leur dire, vous avez vu ce qui manquait aux Canadiens de Montréal dans les deux derniers matchs contre les Hurricanes? C'est tout ce que Claude Lemieux pouvait être en séries éliminatoires.
Justement. Ah non, on va dire, c'est un un joueur exceptionnel. Hey, ce gars-là, là, il a toujours pris soin de sa santé. Il fallait que je le surveille au niveau, par exemple, de son poids. Bon, lui, son poids, je m'en souviendrai tout le temps de ma vie. Lui, son poids de jeu, c'était 210 livres. Puis il fallait que je le surveille parce que la malbouffe dans ces années-là,
c'était
comme elle existe aujourd'hui. Et après sa carrière, il s'ennuyait tellement du hockey, il est allé jouer en KHL en Chine. Il a viré le club en envers, puis il a tellement bien fait que les Sharks de San Jose lui ont donné un autre contrat, peux-tu imaginer?
Oui.
Ça fait que c'est juste pour te dire que c'est un joueur exceptionnel, c'est un gars qui avait du caractère à n'en plus finir, mais une anecdote en passant, on joue les Bruins de Boston, et là, je suis en arrière de lui quand il a serré la main de Charlie Sammer. Charlie Sammer va marier une playmate.
Oui.
Et là, Charlie Sammer, il serre la main, il dit, Claude, t'es un fameux joueur de hockey, mais maudit, t'as une gueule sale. Claude Lemieux, là, d'après moi, il était abonné à Écho Vedette, tous les journaux à Potin, parce qu'il arrivait devant n'importe qui contre qui il jouait. Il lui sortait des choses, là. Des fois, c'est très, très malicieux. Mais ceux qui étaient capables de l'absorber, ils continuaient leur jeu. Mais il y en avait qui n'étaient pas capables. C'est pour ça qu'ils couraient après Claude Lemieux, mais c'était une perte de temps parce que Claude Lemieux avait toujours le dessus.
C'est drôle, hein, parce que je regarde des réactions sportives qui viennent d'un peu partout, puis il y a des gens qui aiment le hockey, entre autres à Détroit et à Philadelphie, qui ont appris à détester Claude Lemieux. Puis c'est un ancien joueur des Red Wings de Détroit avec qui c'est Cole Taillé une couple de fois qui a écrit tantôt. Il dit, je vous résume Claude Lemieux en une phrase. Si tu tournes ton dos à Claude Lemieux sur la glace, t'es un maudit fou. Mais dans vie, hors de la glace, je suis le premier à tourner le dos puis à être en totale confiance.
Ah oui, oui, oui. C'est un gars qui s'exprimait très bien, là.
Oui.
Tu sais, un gars qui a une parole facile avec une belle élocution. Moi, en tout cas, l'écouter en entrevue à la télévision, on va dire, c'est un gars qui a un bon langage, mais sur la patinoire, là, comme on dit, c'était très grossier à certains moments de l'année.
Jean Perron, je vous transmets mes sympathies et je partage mon petit plaisir égoïste d'avoir eu le plaisir de jaser avec vous aujourd'hui.
Mais ça fait plaisir.
Bye-bye. Bonne soirée.
Une belle journée dans une situation qu'on n'aime pas.
Non,
en tout cas,
pas du tout.
C'est ça la vie.
Merci, Coach Perron.
OK, bonne journée.
Bye-bye. Jean Perron, coach du Canadien de Montréal, de la Coupe Stanley, la numéro 23 de la saison 1985-86. Vous rappelez les derniers détails concernant le décès de Claude Lemieux. Il se serait enlevé la vie. C'est un de ses fils qui l'aurait retrouvé dans un commerce de meubles qui appartient à la famille Lemieux en Floride. On vous rappelle que Claude était toujours marié avec son épouse. Il avait 4 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours où il a pu renouer, entre autres, au Centre Bell avec d'anciens partenaires, d'anciens coéquipiers et ainsi de suite? C'est des détails qui sortiront probablement pas, mais on revient toujours au même constat. Hein. Il n'y a pas de bonne raison, puis c'est pas parce que tu as de l'air de bien aller que tu vas nécessairement bien. Je regarde encore les images qui jouent en boucle à la télévision.
Les images de lundi, entre autres.
Claude Lemieux avait l'air d'un héros qui revenait à la maison lundi soir, tu sais, puis tu te dis... C'est-tu la plus belle marque d'amour que tu peux avoir quand tu as marqué ce sport-là, de revenir dans l'actualité sportive, dans une cérémonie comme celle-là, tu sais? Je trouve ça extraordinaire. Puis tabarnouche, j'aime tellement ça entendre Jean Perron radoter des vieilles anecdotes.
J'aurais fait ça longtemps.
Moi, j'aurais fini le show avec, là. Moi, je me rendais jusqu'à 18 heures, là.
Honnêtement, je suis en train de me dire on aurait dû se faire un podcast.
Oui, effectivement. Jean Perron qui avait du front tout le tour de la tête. Puis moi, j'ai lu la biographie de Patrick Roy où il y a beaucoup de détails sur la fin de saison du Canadien puis le début des séries éliminatoires. Puis il nous parlait des anciens, des leaders, Larry Robinson et Bob Gainey. C'était des gens qui étaient sceptiques sur le fait d'utiliser Claude Lemieux beaucoup il était sceptique sur le fait de choisir Patrick Roy comme étant ton gardien de but numéro un. Puis à un moment donné, il avait dit « OK, coach, on va y aller. On y va de même. On va vivre et mourir avec tes décisions. »
Ça aurait été payant. Hein?
« On va calmer le vestiaire, puis on s'enligne, puis on est all-in. » Puis effectivement, ça a été payant. Puis je continue à trouver que Jean Perron n'a pas le crédit qu'il mérite de cette coupe Stanley-là, parce qu'on sortait d'une des pires torpeurs historiques du Canadien de Montréal.
7 ans.
Ouais, c'est dur d'expliquer. C'est dur d'expliquer ça aux jeunes, mais c'est quand même ça. Ça a été une équipe très ordinaire pendant la première moitié de la décennie 80. Et c'est les choix audacieux, les choix gutsy de Jean Perron qui ont fait en sorte que le Canadien a gagné la Coupe Stanley cette année-là. On est plongé dans nos souvenirs nostalgiques. C'est plus agréable se rappeler ça, se rappeler lundi soir, que Absolument. De parler de la fatalité aujourd'hui, d'autant plus qu'on a très peu d'informations. En fait, il y a peut-être même des gens qui se posent la question, comment ça se fait qu'à Boulevard, vous dites qu'il s'est enlevé la vie, parce que c'est pas jasé beaucoup au Québec. Je dirais que c'est pas jasé du tout au Québec, même au moment où on se parle, dans les grands titres et ainsi de suite, mais ça s'est répandu comme une traînée de poudre aux États-Unis. C'est le réseau TMZ qui est arrivé avec les informations, puis là, le New York Post l'a repris. Il y a quelques anciens joueurs, quelques commentateurs sportifs également qui ont véhiculé l'information, puis nous autres, bon, on l'a appris en onde.
En début d'émission.
C'est évident qu'on... c'est Véro qui a vu l'information. J'ai vu d'en face à Véro qu'elle hésitait à le dire.
En fait, je voulais pas le croire.
Ouais, c'est surtout ça. C'est de s'assurer que c'est pas une mauvaise blague ou un canular, mais c'est l'information qui a commencé à être partagée au début de l'après-midi. Donc, Claude Lemieux qui s'est enlevé la vie à l'âge de 60 ans du côté de la Floride, 3 nuits à peine après sa présence au Centre Bell lundi soir avec le flambeau bien haut. Et c'est terriblement triste, puis on revient à base, là. Passer un moment difficile, t'as beau être heureux, t'as beau être riche, t'as beau être pauvre, t'as beau avoir gagné 4 coupes Stanley dans 3 uniformes différents ou t'as même pas fait la Ligue de hockey junior majeur du Québec, quand tu files pas, tu files pas. Puis quand tu files pas, ben faut que tu parles. Oubliez pas de parler, oubliez pas. Reach out. Puis il y a du monde qui vont être là pour vous autres. Si c'est pas vos amis, si c'est pas votre famille, si vous voulez pas inquiéter vos proches, ben utilisez tous les services qui sont disponibles. Le 1-866-APPEL. Écrivez « besoin d'aide » sur Google, puis vous allez avoir toutes les listes, tous les sites Internet. Ça vous tente pas de parler au téléphone, vous pouvez chatter avec quelqu'un. Puis rendu là, honnêtement, utilisez tous les moyens qui sont à votre solution. C'est une phrase qui est usée, mais elle est encore valide. Le suicide est une solution permanente à un problème temporaire. Le soleil va finir par revenir. Accrochons-nous les uns aux autres. Tenons-nous serrés ensemble. Quand il y en a un qui commence à caler, on le remonte, mais il faut que vous vous laissiez remonter aussi. Reach out. Appelez du monde. Parlez à quelqu'un. Un étranger au pire. N'importe qui. N'importe comment. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon. Faites juste vous ouvrir un peu. Vous allez voir qu'on vit toutes les mêmes affaires. On vit toutes les mêmes montagnes russes. On a toutes des creux qu'on ne met pas sur Facebook puis qu'on ne met pas sur Instagram. On peut s'aider. À la gang, encore faut-il parler puis peut-être des fois commettre le premier geste. Et à l'autre bord de l'équation, si vous voyez quelqu'un qui n'a pas de l'air sûr, en lui demandant comment ça va, au lieu de continuer à marcher puis vous rendre dans le corridor, dans l'escalier, dans l'autre bureau, peut-être arrêter un peu puis attendre la réponse. Il y a peut-être des gens qui attendent juste ça. Hey, merci d'être là. Vous êtes à Boulevard. C'est Gravel dans le retour. Bonjour. 16h32, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour. On est sous les nuages et les bonnes probabilités d'averse pour ce soir et cette nuit. De l'ordre de 60 % des chances de pluie avec un minimum de 6 degrés. On a 9 présentement à Québec. Demain, un peu le même portrait, nuageux, 60 % les probabilités d'averse avec un maximum de 13 degrés, température même à la baisse pour atteindre 9 degrés en après-midi. La bonne nouvelle, c'est que le week-end commencera bien samedi, soleil, 19 degrés. Dimanche, plus de nuages, 40 % les chances d'averse, un maximum
de 16. Sur les routes, Audrey.
Toujours aussi difficile si vous êtes sur la capitale direction ouest entre Henri IV et Laurentienne. Ouest, ça se passe entre Henri Bourassa, même Beau-Royal, je vous dirais, et Laurentienne. Si vous êtes sur Robert Bourassa Nord, c'est à la hauteur de Charest. Henri IV Sud, de Charest au pont, c'est au ralenti. Même chose si vous êtes sur Duplessis Sud. Henri IV Nord, ça se passe dans le coin de la capitale. Un peu plus haut aussi en arrivant devant la base militaire à Shannon. Route de la Bravoure, direction nord surtout. Route de Fossambeau, c'est entre des Érables et de la Jacques-Cartier. Si on traverse sur la rive sud, la 20 principalement, direction ouest, hauteur chemin des îles, c'est toujours problématique. Et Guillaume Couture dans les deux directions, hauteur Taniata et hauteur route du président Kennedy. Problématique à cause de travaux. Autre chose, 88-971-102, un texto.
Il y a beaucoup de nouvelles actualités qui est tombée dans les dernières minutes. On va prendre le temps de faire le tour. Puis après ça, on parlera de Jean-François Posé, des Cowboys fringants, ouais, qui a expliqué un peu sa position par rapport au groupe hommage. Rappelez-vous, il avait pété sa coche sur son Instagram à l'annonce d'un groupe hommage aux Cowboys fringants qui allait faire bien du cash avec une tournée du côté de la France.
Ça semblait être la goutte qui avait fait déborder un vase. Puis il y a certains éléments qu'il mentionne que je peux comprendre.
Oui, mais...
Oui, c'est ça. Ouais.
Tu sais, c'est toujours un peu touché. Tout est dans la façon, je pense. Puis tout est dans le timing. Mais regarde, on s'en reparlera dans les prochaines minutes. Pour l'instant, Véro, dans l'actualité.
Oui, commencer avec des arrestations qui ont été faites en lien, des perquisitions et des arrestations en lien avec des actes de violence qui ont été perpétrés entre avril et mai de cette année à Saint-Henri-de-Lévis, à Pointe-Négamouc et à Sainte-Claire. Donc, c'est autant du côté de la SQ que de la police de Lévis qu'on a dû intervenir. On a arrêté 2 personnes majeures et 1 mineur dans des logements de la rue des Roses à Québec. David Tapsquan Niquet, 18 ans, et un mineur qui devrait comparaître au palais de justice de Québec dans les prochaines heures. C'est des accusations d'introduction par effraction dans une maison d'habitation, de déguisement dans un dessin criminel, d'agression armée, d'infliction de lésions corporelles et de vol qualifié. Pour ce qui est de l'autre homme âgé de 30 ans, il a été libéré en attente des suites de l'enquête, donc ça pourrait bouger. Et les perquisitions dans les logements de la rue des Roses ont permis de récupérer des éléments de preuve vestimentaires, électroniques et des armes à expertiser. Quant à savoir voir quels sont les liens à travers tout ça. C'est des éléments qu'on n'a pas encore à ce moment-ci. Il y a aussi la police de Québec qui a réagi en fait à la demande du maire. On a vu dans le journal ce matin le fameux campement qui est installé dans le secteur du parc Jean-Paul Lallier, dans le secteur Saint-Roch. Ça fait des années qu'il y a des itinérants dans ce coin-là, mais que dans les 2 dernières années, ça s'est consolidé.
T'es pas en sécurité quand tu vas dans ce parc.
Moi, je vais plus me stationner dans ce stationnement-là.
Moi,
parce qu'en dessous du parc, il y a un stationnement.
C'était mon spot.
Avec des portes sécurisées. Puis la fois où je suis sortie de là, puis qu'il y a quelqu'un qui a tenté de rentrer en même temps que je sortais parce que c'est barré, puis que je savais pas pantoute. Ouais, non, c'est ça, Audrey. J'ai fait un osto de saut.
Bien, il y a eu un meurtre juste en haut de cet escalier-là.
Il y a quelqu'un qui avait été retrouvé mort, effectivement,
oui, effectivement.
Dans ce coin-là. Donc, à la demande du maire, la police qui va serrer la vis dans ce secteur-là. Il y a eu beaucoup de plaintes aussi. Moi, je trouve qu'il y a eu du laxisme dans le coin. On a laissé des gens s'installer. Puis, gars, c'est triste, l'itinérance. C'est vraiment tragique. On a un filet social. C'est un filet social qui n'est pas capable de rattraper tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'Aube-Rivière. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller dans les différentes ressources. Mais c'est pas plus une raison, là.
Mais c'est parce que tous ceux qui sont impliqués sur le terrain, puis ça inclut les policiers, j'ai lu toutes les entrevues qui ont été faites là-dessus ce matin, c'est tout du monde qui disent on la comprend, la loi, puis il faut défaire les campements, mais c'est parce qu'il y a de l'humain aussi.
C'est exactement ça.
Ils n'ont pas de place.
C'est quand il y a un campement qui est défait, ben il se déplace, il va aller en dessous des bretelles, il va aller dans
d'autres
secteurs où il va revenir.
Exact.
Puis, soit tu concentres ça au même endroit, soit tu acceptes de vivre avec le fait qu'ils vont être éparpillés parfois dans des entrées de commerce ou en fait de locaux de commerce qui sont vacants.
Puis tu sais, le côté humain, ça va être par exemple de dire, ben on ne demandera pas de faire son campement tout de suite parce qu'il annonce de la pluie pour 3 jours, puis il va faire 2 degrés pendant la nuit. Tu sais, parce qu'ils savent que c'est un manège à recommencer éternellement parce qu'ils n'ont pas de domicile puis ils ne sont pas capables d'aller ailleurs. Ils n'ont plus assez d'autonomie pour ça. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils défont le campement, mais ils savent où est-ce qu'il va être refait le lendemain parce qu'ils ont déjà fait le cycle.
Ils les connaissent.
C'est triste à mourir, mais qu'est-ce que tu veux? Par contre, il y a des
des infrastructures publiques qu'on se doit de ramener.
Absolument.
Puis le parc Jean-Paul Lallier, c'en est une. C'en est une qu'on a complètement échappé, qu'on a même, je pense, pas mal arrêté d'entretenir.
Il y a plusieurs mois de ça, l'ancienne députée Agnès Maltais était venue nous voir en studio parce que, entre autres, elle fait partie de l'entourage de SAPSA. Là. Elle est présidente, je pense, oui. du CA de SAPSA. Puis elle indiquait, entre autres, que tu sais, il y a des éléments qui ont disparu dans Saint-Roch dans les dernières années. Les maisons de chambre.
Oui.
Où c'était possible de louer une chambre pour vraiment pas cher. Puis tu sais, c'est souvent du monde qui ont des petits emplois qui peinent à les tenir, mais tu sais qu'au moins, ils sont pas dans la rue. Puis la disparition de lieux comme ceux-là, dans un coin comme Saint-Roch, je comprends que souvent les policiers sont appelés souvent à intervenir dans ces logements-là, puis pas juste dans le secteur de Saint-Roch, un peu partout en ville. Mais d'un autre côté, ça procurait un toit. Puis des fois, ça pouvait procurer... curer une opportunité à quelqu'un qui avait peut-être l'option de s'en sortir encore, mais il va falloir que le gouvernement s'implique dans les logements, puis ça a été souligné aujourd'hui du côté de l'Assemblée nationale, logement, santé mentale, il y avait des témoignages aujourd'hui, puis c'est des témoignages qui reviennent de manière récurrente, il n'y a rien de neuf là-dedans, c'est juste que si on ne le ramène pas dans l'actualité, mais les gens ont peut-être arrêté de s'en soucier, les autorités vont arrêter de s'en soucier. Parlons aussi du pont de l'île d'Orléans. Je vous en jasais juste quand on a fait les nouvelles avant de parler avec coach Jean Perron. C'est une entrevue que le maire de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans et préfet de la MRC a donnée au journal. Il s'appelle Jean Lapointe. Lui dit ne jamais avoir été informé du document du ministère des Transports dans lequel on mentionnait que le pont actuel ne pourrait être utilisé après 2027. Il dit le MTQ, tu as tout le temps dit que le pont était toujours sécuritaire. C'est pour ça qu'il y avait des travaux jusqu'à la mise en service du nouveau, parce que ça, c'est l'autre affaire qui a été annoncée par le ministère des Transports aujourd'hui. L'échéancier pour 2028 ne tient plus. Ça va aller plus loin que ça, même si on ne sait pas à quel moment. Et là, ce qui circule, c'est que si ton nouveau pont n'est pas prêt en 2027, mais que ton vieux pont n'est plus sécuritaire en 2027, qu'est-ce que tu fais entre les deux? Puis il a souligné avec justesse, hey, ça, je ne savais pas. Savais-tu ça que les camions qui passent sur le pont de l'île n'ont pas le droit d'être chargés à pleine capacité?
Moi, je savais.
C'est le principe de la période de dégel, mais à l'année longue. Fait que tu sais, c'est des coûts supplémentaires, autant pour ce que tu fais venir que ce qui sort de l'île d'Orléans, c'est des territoires agricoles. Fait que c'est plusieurs éléments comme ça. Puis il a mentionné, il dit, si le pont ferme, on fait faillite, là.
Bien, c'est sûr. C'est sûr.
C'est au-dessus de 650 000 touristes par année qui vont à l'île d'Orléans, en plus des productions, en plus des commerçants là-bas.
On pourra pas faire nos belles photos aux pommes.
Encore, Lynn.
Les cabanes, les fraises.
Là, on va être obligé de trouver des filtres.
Non,
là.
Mais tu sais...
Le filtre pomme, peut-être.
Je trouve tellement que les commerçants de l'île d'Orléans, dans les dernières années, ont suivi la tendance de tout le monde, puis se sont élevés, puis ont créé des incontournables. C'est fantastique. Là.
Le pire, c'est que c'est une responsabilité gouvernementale. Ils font un recours collectif, puis ils vont ruiner le Québec, là.
Puis l'autre élément, c'est que là, les oppositions ne pourront pas s'emparer de ce dossier-là, parce qu'il a relaté, c'est que du temps du PQ, du temps du Parti libéral, il n'y a pas plus de choses qui se sont faites pour prévoir ça.
Mais c'est plus des affaires de partisanerie.
Non.
C'est que là, tu dois forcer les gouvernements à faire le job. Puis ça doit être des lois qui sont faites qui disent... Les infrastructures passées tant de pourcentage de vie, le plan doit être fait et doit commencer. Tu sais, t'as pas le choix. Les gouvernements sont plus assez conscients de ces enjeux-là. Ils veulent juste se faire réélire. On fait du donnage de bonbons, du donnage de nananes, mais les gros travaux, il n'y a plus personne qui veut embarquer là-dedans parce que ça coûte trop cher. Puis tout le monde est coupable. L'industrie de la construction qui fait la passe avec ça, les firmes, les fonctionnaires, on est rendu dans une roue qui tourne tout croche où tout le monde trouve son compte, sauf les gens qui vivent sur le plancher des vaches puis qui demande juste des infrastructures où on est capable de rouler puis de circuler en sécurité. La base de la base de la base, on n'est plus capable de le faire.
Oui, puis parlons-en des priorités des ministères. Puis c'est en une du journal, c'est un texte de Nicolas Lachance. On parle encore une fois du ministère des Transports. Ben, en fait, on parle de la Société de l'assurance automobile du Québec qui relève du ministère des Transports. Les vice-présidents de la SAAC peuvent consulter des médecins au privé aux frais des contribuables.
Pourquoi?
C'est une entente, un contrat de gré à gré qui a été conclu entre la SAAC en 2024 avec la clinique Medicaction qui est à Lebourgneuf. C'est un contrat de 21 000 $ pour offrir à ses vice-présidents un accès à des services médicaux privés alors qu'au Québec, on se targuait cette semaine. Wouhou! On a réussi à inscrire des Québécois sur la liste pour les médecins.
Fait que tous ceux qui ont fait des burn-out parce qu'ils ont fait une job de cul dans le projet SACLIC ont pu aller consulter au privé sur le bras.
Ça a été révélé par ministère, le député libéral Moncef Deragy, pendant les études des crédits. C'est fou ce qu'on apprend pendant les études de crédit quand on porte un peu attention.
Quand même.
C'est un contrat intitulé « Bilan de santé annuel pour les vice-présidents de la SAC ».
Comment les gens de la SAC peuvent réussir à avoir des bonus, puis des sides, puis des affaires le fun avec le travail de merde qui a été fait dans les dernières années?
On nous souligne aussi avec justesse que les 7 vice-présidents de la SAC touchent en moyenne un salaire de combien par année?
C'est 150? 300, 400 000?
270 000. Donc, une allocation annuelle de 2 500 $ des assurances et un régime de retraite. C'est bien sûr le ministre des Transports qui a été questionné. Il a dit qu'il n'entérinait pas ça, qu'il cautionnait pas cette initiative-là et que ça ne serait pas renouvelé à la fin de cette entente, j'imagine. Puis, je veux revenir sur ce dont on jasait. Je vous parlais des maisons de chambre. Puis, quelqu'un nous souligne, c'est vrai que pour les maisons de chambre, à cette heure, on a plein de Airbnb. On n'a pas une crise du logement, c'est une crise de l'abordabilité des logements. La Ville de Québec, en fait, c'est le conseil d'arrondissement du 25 mai dans le secteur de Limoilou là, qui ont adopté une décision où on va serrer la vis au Airbnb dans ce secteur-là. Il y a plusieurs zones avec différents permis, si on veut. Là. Et là, ce qu'on veut faire, c'est que, entre autres, il y a certains qui vont pouvoir les conserver, mais si on vend l'immeuble, on va perdre ce droit-là d'avoir des Airbnb. La Ville de Québec n'est pas la seule ville à avoir serré la vis. Il y a plusieurs grandes villes qui ont choisi des périodes de l'année où tu avais le droit de faire du Airbnb.
Mais j'ai pas vu un propriétaire d'Airbnb célèbre là, aller broyer sur son triste nombril à l'hôtel de ville.
Parce qu'il payait trop cher de
taxes. Ses taxes. Lui, il faisait ça pour le monde. Il ne faisait pas ça pour fourrer des touristes. Là. Il faisait vraiment ça pour le monde parce que c'est un bon monsieur.
Parce qu'actuellement, c'est ça le problème dans plusieurs grandes villes. Des propriétaires d'immeubles où on pourrait avoir des logements des 1,5, des 2,5, des 3,5, des 4,5.
Tabarnouche!
On préfère les louer en Airbnb.
C'est pas de même qu'on me l'avait compté.
Puis tu sais, selon le t'as des grades pour les permis de Airbnb. Là. Si t'es loué pas plus que tant de jours dans une année, t'es correct, etc., etc. Mais il y a des gens qui les louent tellement cher qu'eux autres, ils s'en sacrent de pas
non,
les louer.
Non, la personne célèbre qui est allée à l'hôtel de ville, c'est pas pour faire de l'argent qu'elle fait ça, c'est pour aider le monde, c'est pour aider des gens qui sont vraiment dans le besoin. Là. C'est pas pour fourrer des touristes à tour de bras pour faire de l'argent sur le dos du pauvre monde. Là. Tu l'expliques très mal. Moi, c'est quelqu'un que j'entends régulièrement puis c'est quelqu'un d'excessivement honnête. Fait que c'est sûr qu'il a expliqué ça sans essayer de se donner un bon rôle dans un mauvais casting. Je vois pas comment quelqu'un qui a un Airbnb dans le Vieux-Québec pourrait penser faire la pièce avec ça. On fait ça pour aider les gens. Les propriétaires d'Airbnb. Je sais, il y a quelqu'un de connu qui me l'a dit à l'hôtel de ville.
C'est vrai qu'à la base, le principe d'Airbnb, c'était de l'économie de partage. C'est, mettons que tu t'en vas de chez vous pendant une couple de semaines, ça te permet de... mettons que personne soit chez toi, ça te permettait d'avoir quelqu'un à la maison, ça sauvait des coûts, etc., etc. On est bien ailleurs.
Mais il y a des chambres littéralement à louer plus chères qu'une chambre d'hôtel.
Mais t'as raison, t'as tout à fait raison.
Bon, 16h46, on parle-tu des gros pommages?
Go!
Qu'est-ce qu'il y a?
J'allais dire, oui, ils payent plus cher que des chambres d'hôtel, mais ils vont se faire leur repas.
Ouais,
ça arrive jamais. Tu vas au restaurant pareil.
Hey, on parle beaucoup des cow-boys fringants cette semaine. Il y en a un qui est devenu le scientifique en chef du gouvernement du Québec. Hey, d'ailleurs, il y a des vieilles images de 2019 qui se promènent où, dans le même bulletin de nouvelles à Radio-Canada... Le B6 des cow-boys fringants apparaît deux fois dans le bulletin de nouvelles. Il apparaît une fois à titre de scientifique pour une nouvelle concernant je sais pas quoi, peut-être l'environnement, quelque chose de même. Et plus tard, dans le même bulletin de nouvelles, il y a la section art et spectacle. Mm-hmm. Puis on couvre un spectacle des cow-boys fringants. Puis le même gars dans le même bulletin de nouvelles qui a eu le temps de se changer parce que là, il est backstage puis il est en T-shirt. Puis quand on l'a vu dans son rôle de scientifique...
Il avait une chemise puis un veston.
Il est tout costard, cravate et tout ça. Tu sais, vraiment Clark Kent, Superman, dans le même bulletin de nouvelles, il avait fait les deux rôles. Je disais qu'on parlait beaucoup des cow-boys fringants cette semaine parce que Jean-François Posé avait pété sa coche il y a quelques jours sur les gros pommages aux cow-boys fringants. Mm-hmm. Puis là, il a rajouté... je trouvais que... C'était le temps qu'il fasse. Là.
Donner des détails.
Donner des détails sur une sortie quand même qui venait de nulle part, là, qu'on avait vu sur son Instagram, alors qu'un gros hommage au Cowboy Fringant avait annoncé qu'il s'en allait faire une tournée de spectacle en Europe. Puis là, par-dessus cette publication-là, il avait comme écrit « Hey, vous avez pas le goût de faire vos propres tunes, les boys » ou quelque chose dans le genre. Fait qu'on va parler des explications de Jean-François Posé et des gros hommages. Mais d'abord, rendons hommage au gros hommage.
avec mon oncle Serge et Anonymous.
Les milieux les plus branchés, on méprise les gros pommages. Les artistes subventionnés aiment chier dessus avec rage. Pourtant c'est ce genre de show qui remplit de nul les bars. C'est pas comme ton band de compo où la salle est vide aux trois quarts. Ceci est un hommage à tous les bands d'hommage. Faut voir des shows d'aréna comme au Centre Vidéotron. C'est si cher que t'as pas le choix. Faut hypothèque ta maison. T'es au quatrième balcon. T'entends rien qui tu vois pas. C'est prendre le monde pour des cons. Puis le pire c'est que le monde y va. Ils vont voir des bandes trop vieux. Ils sont plus bons comme avant. Ils ont marché beaucoup mieux. Ils sont comme les vrais. Les vrais dans le temps. Puis surtout les gros fromages. Leur billet coûte pas trop cher. Tu vois le toc. Ils donnent la main.
Je suis d'accord avec tout ce que vous venez d'entendre en passant. Là.
Du Kiss, du AC/DC, pas des Chris de toune merdique, écrit par des nobody. Oh yeah!
Bon, Jean-François Posé, qui a été appelé à s'expliquer sur le problème qu'il avait avec les gros hommages aux cow-boys fringants, il dit qu'il commence à avoir de gros bémols en lien avec les nombreux gros hommages. Il dit, et je cite, tous les noms de nos albums et de nos chansons sont pris. Genre, l'Amérique pleure rend hommage aux cowboys fringants.
Ouais, mais c'est ça, avoir un succès. Là.
Oui. Il dit, j'ai de la misère à voir qu'il n'y a pas d'opportunisme. Certains groupes ont même booké des shows en France et font de gros cachets. À un moment donné, je me dis, écrivez vos tunes au lieu de repiquer les tunes des autres. Ça m'a comme fâché, surtout qu'il n'y a aucune limite et qu'on ne reçoit aucune redevance. Le chanteur s'est vu refuser de jouer dans un festival québécois récemment avec son spectacle solo. Il s'est fait répondre, bon, on a déjà un gros hommage au cowboy fringant, fait qu'on va se passer de tout.
Ça, c'est quand même fucky, là.
Ça, par exemple, c'est vraiment particulier, honnêtement.
Ben, oui, mais non. Ça dépend ce que tu veux. Si les gens veulent...
Ben, moi, le gars des cowboys qui me chante des tunes des cowboys...
Ça va être ça avec un gros hommage,
ben,
là.
C'est moi qui est folle?
Oui, mais non. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu partir sur le party avec un band non, qui ouais. joue Yang des tunes des Cowboys fringants ou tu veux vivre une expérience avec un des gars des Cowboys fringants qui va te jouer ses tunes solo puis qui va te jouer des tunes des Cowboys fringants? Moi, c'est pas la même affaire. J'étais un gars de festival, je prends la même décision. Ouais. Un festival qui veut faire un petit peu d'argent on the side ou qui veut pas tomber en déficit, tu te dis qu'est-ce que je fais? J'essaye Jean-François Posé, l'ancien cowboy fringant qui est son nouveau stock, où je vais être sûr que le party pogne, puis je vais prendre un gros hommage aux cowboys fringants qui vont juste jouer des tunes que tout le monde connaît par cœur. Puis je le sais que c'est pas juste, mais ben, tu comprends-tu le raisonnement?
Je comprends sa frustration. Ben,
mais d'un autre côté, si mettons c'est un festival que la musique c'est tertiaire, puis c'est effectivement juste pour vendre de la bière à côté de bien d'autres affaires, j'imagine que c'est comme c'est exactement ça. Mais je vois mal un grand festival où l'intérêt principal est la musique dire... « Ah, mais on a booké un gros hommage, puis on va dire non à Jeff Posé. » Tu comprendras que c'est pas la même game.
Mais en même temps, si eux autres décident que les cowboys fringants, c'est fini, ben c'est eux autres qui ferment la porte. Ça veut dire qu'il y a un paquet de gens qui vont rentrer par la fenêtre puis qui vont dire « Ouais, mais nous autres, on va la faire, la musique des cowboys fringants, parce qu'il y a une demande, puis il y a un besoin, puis il y a des gens qui ont le goût de se rassembler autour de cette musique-là, tu sais. »
Mais ça doit être difficile encore. Il y a une demande, puis un besoin,
Audrey,
le chanteur est mort.
Ça doit être choquant. Terriblement choquant.
C'est crissant même.
Mais en même temps, je comprends la décision de business, puis je comprends tout le monde. Moi, je trouve ça rapide, là. Tu sais, si je veux faire un gros hommage aux cowboys fringants pour les bonnes raisons, puis que je trippe vraiment sur le band, je fais pas ça dans les 6 mois suivant le décès du chanteur, personnellement.
Il y a des gros hommages qui existaient bien avant ça, là. T'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui est mort dans ton band
pour
qu'un groupe populaire ait des gros hommages.
Ça fait peut-être partie des raisons qui font qu'il est un petit peu en joie le vert de voir, mettons, que dans la première année suivant le décès de Carl Tremblay, on est passé de 10 gros hommages aux cowboys fringants à 250, là, mettons. Je dis n'importe quoi, là. Autre chose que Jean-François Posé a raconté, il cite également un groupe hommage qui, peu de temps après le décès de Carl Tremblay, mettait en scène un chanteur qui était déguisé en Carl Tremblay. C'est bizarre un peu, là. Ouais. D'autant plus que c'est pas comme si la personne se déguisait
comme, mettons, un gars de Rammstein ou Genesis dans le temps avec Peter Gabriel. Là. C'est pas le même enjeu. C'est sûr que ça fait bizarre. Mais s'il y a des groupes hommages, parce que le monde veut entendre cette musique-là, puis ce que mon oncle Serge expliquait dans sa chanson, c'est pas faux non plus. Je sais pas combien Jean-François Posé charge pour un billet de spectacle, mais il charge sûrement une partie de l'héritage Cowboy fringant. Ça m'étonnerait que ce soit à 25$ son show, là. S'il y a des gens qui vont se tourner vers un groupe hommage pour des raisons d'économie. Puis ça fait partie des problèmes de l'industrie actuellement. Il y a des gens qui disaient que le rock est mort dans les dernières années à cause de ça. Parce que les gens qui aiment la musique rock, souvent, c'est des gens qui ont des revenus un peu plus faibles. Bien, ces gens-là sont plus capables de se payer des billets de spectacle. Fait qu'il leur reste quoi? Bien... Il lui reste les groupes hommages. Je comprends sa frustration, mais en même temps, je suis sûr que même lui, il comprend toute la business autour.
C'est sûr.
Ouais. Ça ferait quoi, hein, les trois cow-boys fringants qui décident, hey, on repart ça, puis on se trouve un nouveau chanteur? Ça s'est déjà fait souvent.
Ben, ouais. Too soon, mais tu sais, quand t'en as une, que c'est littéralement la femme de l'autre.
Ouais, j'avoue. Hein.
Ouais. Mais encore là, tu sais. Quand le chanteur des CDC est décédé, eux autres, ils ont décidé qu'ils continuaient, puis ils ont ramassé un chanteur, puis il n'y a pas eu de break, il n'y a pas eu rien, puis ils ont continué à foncer par en avant.
C'est bizarre.
C'est bizarre. Mais en même temps...
Mais je le filerais pas, tu vois. C'est plate ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est le genre d'affaires qui peut encore se faire à l'international, mais qui se ferait pas au Québec.
OK.
La proximité.
On est trop...
Si les trois vont, mettons, à Tout le monde en parle, puis qui expliquent, hey, nous autres, là...
Tu vivrais-tu bien avec les colocs, mettons, qui...
Pas de dédé?
Ben...
Ça marche pas.
Ils ont le droit de faire... Dans ma tête, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Puis moi, en tant que...
C'est le fan qui va parler.
Consommateur, ça, ouais. Ou en tant que fan, j'ai le droit d'y aller ou de pas y aller. Mais je te donne un exemple. Puis restons ces cow-boys fringants. Mettons que les trois sont à Tout le monde en parle, puis ils disent, hey, nous autres, là... Ça fait 2 ans qu'on n'arrête pas de brailler. Le seul bout où on braille pas, c'est quand on fait de la musique ensemble. On aimerait ça continuer Cowboy Fringant parce que c'est ce qui nous empêche de virer fou. C'est ce qui nous accroche à la vie, puis on a le goût d'aller voir le monde qui ont le goût d'aller nous voir. Les autres venaient pas, mais les autres qui veulent nous donner une chance avec notre nouveau chanteur ou notre nouvelle chanteuse.
Il n'y aurait pas de nouveau chanteur, par exemple, Max Potter, il n'y aurait pas de nouveau chanteur, ce serait Jeff Posey.
Ben oui, il serait capable.
Déjà, ben non, mais tu sais, c'est
raison.
Déjà lui.
Il y a raison.
Rapport, là.
Ben oui.
Fait que ça pourrait être ça, mais j'ai l'impression qu'effectivement, peut-être encore... Tu sais, des fois, tu veux, dans le deuil, protéger l'âme de quelqu'un, l'aura de quelqu'un, le souvenir de... Tu sais, Linkin Park, ça a pris des années, là. Peut-être que ça va prendre des années, puis peut-être qu'à un moment donné, ils vont repartir ça trotte en se disant, on le fait justement en hommage à notre Carl, mais j'ai le sentiment qu'on est vraiment encore trop tôt pour ça, puis que ça ne marcherait pas.
La réflexion, de toute façon, se poursuit, puis en même temps, est-ce que des... Je sais pas si c'est des redevances, ce serait impossible à contrôler. T'sais, des groupes hommages qui enverraient des redevances ou whatever aux compositeurs des tunes originales, puis ainsi de suite. Imagine-toi.
Un certificat, un permis.
Ouais.
Puis
en même temps, ben, un groupe hommage au Cowboy Fringant qui aurait l'autorisation officielle du band, puis qui met ça sur son poster.
Comme ça se fait pour des groupes hommages à l'international.
Exact. Ben, quand Martin Fontaine faisait Elvis. Quand Martin Levac faisait Phil Collins, quand le groupe Musical Box fait du Genesis, ils ont la bénédiction des artistes. Mm-hmm. Ça leur donne une crédibilité de plus, c'est
surtout
sûr et certain.
Surtout que ça évite des situations comme celle-là.
Ben oui, exact. Hey, 16h56, vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour. Gravel.